Bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Ndiki Luka. Nous nous intéressons aujourd'hui à la tension de trésorerie annoncée par le ministère des Finances et du Budget. L'avenir paraît très incertain pour les finances publiques et l'économie nationale et la situation s'annonce très préoccupante, a indiqué Erwin Doba sur la page Facebook de son institution. Le membre du gouvernement s'inquiète en ces termes. Dans ce contexte particulièrement tendu, l'exécutif est mis à rude épreuve. Il est vital de poursuivre les séances d'immersion budgétaire à un rythme adéquat en vue de pratiquer des coupes de 40 à 60% dans le budget des ministères sectoriels. Fin de citation. Cette situation va de mal en pis du moment où les appuis budgétaires extérieurs ont été suspendus. Et pour contourner ce danger qui guette le pays, l'Assemblée nationale, sous l'initiative du pouvoir, a voté la loi sur la crypto-monnaie, une monnaie numérique en usage sur Internet. En d'autres termes, c'est un argent virtuel où les transactions s'effectuent sans le contrôle des banques ou du moins d'homme à homme. Question Patara du jour, le gouvernement centrafricain serait-il en mesure d'éviter le pire? Que faut-il faire pour sortir de cette impasse? Le président Touadéra est-il vraiment dépassé par le cours des événements? Si oui, quelle stratégie concrète et avec l'opposition démocratique fait-il mise en place pour le bien-être des populations centrafricaines? Pour en parler, le plateau Patara d'aujourd'hui du Radio Ndiki Luka reçoit M. Diebeni Ontiga, ingénieur en système d'information et conduite de projets informatiques. Monsieur, bonjour et bienvenue pour la première fois dans le débat politique de Radio Ndiki Luka. Monsieur Alexis Nduyabela, bonjour.
Bonjour Armando.
Conseiller politique du président de l'Assemblée nationale et cadre du mouvement Les Cœurs Unis du président Touadéra MCU. Monsieur, bonjour aussi à vous, Martin Ziguelé.
Bonjour.
Député et président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndiki Luka.
Vous l'avez suivi tout comme moi, l'inquiétude du ministre des Finances et du Budget sur la santé du Trésor centrafricain. Est-ce que cela vous a surpris, M. Ziguelé?
Oui, je vous remercie. Je voudrais saluer d'abord mes co-débatteurs. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je voudrais également saluer toutes vos auditrices et tous vos auditeurs et vous remercier de nous avoir invités à cette émission pour débattre sur des faits, sur des analyses, pour peut-être aider à faire face à ce cap très très difficile qui s'annonce pour notre pays. Il vous souviendra que lors d'un débat il y a 2 mois sur vos antennes ici même, j'avais prédit sur la base des analyses factuelles que la crise militaire entre la Russie et l'Ukraine allait entraîner des conséquences importantes pour notre pays et par conséquent pour notre budget. Parce que vous savez, tous les pays du monde commercent entre elles. C'est comme le marché kilomètre 5 qui est là. S'il y a beaucoup de clients qui vont au marché kilomètre 5, il y a beaucoup de commerçants qui s'installent au marché kilomètre 5 et commandent donc beaucoup de marchandises parce qu'ils vendent facilement puisqu'il y a beaucoup de clients. Ça se passe à peu près de la même manière pour les pays. C'est ce qu'on appelle en économie la demande extérieure. C'est-à-dire, si la RCA peut commercer avec beaucoup de pays, importe des biens de la RCA, ou la RCA peut importer des biens de ces pays-là, le commerce marche. Et par conséquent, le budget reçoit, mis à part les droits de porte, c'est-à-dire les droits de douane, sur la TVA, sur la consommation, l'impôt sur la consommation. Quand vous achetez une bouteille d'huile importée d'Ukraine, vous payez 19% de TVA, ça va à l'État. Donc, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur la consommation. Et quand vous n'achetez pas la bouteille d'huile, l'État n'a pas la contrepartie de ce que vous faites. Donc, votre manière de consommer ou de ne pas consommer a des incidences diverses sur le budget. Donc, globalement, l'ensemble de ce tableau qui s'assombrit sur le plan international, je l'avais dit, allait avoir des conséquences sur la RCA et nous y sommes. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que lorsque ce budget se débattait à l'Assemblée, je n'étais pas bongé. Mais dans des discussions informelles avec d'autres collègues, j'ai dit, mais la règle, c'est que lorsque des ressources ne sont pas garanties comme acquises ou prévisibles ou mobilisables, on ne les inscrit pas au budget de l'État. Et malheureusement, il y a eu des inscriptions sur le budget de l'État, peut-être qu'ils répondaient à des nécessités. Peut-être que à l'époque, les informations n'étaient pas très tangibles, mais tout le monde savait qu'il y avait des difficultés de mobiliser les ressources, notamment extérieures. Et maintenant qu'apparemment, si je me fie aux déclarations du ministre des Finances, les instances qui nous accompagnent et dans le cadre de fonds élargis de crédit et dans le cadre des autres appuis budgétaires, on dit que ce sujet n'est pas inscrit à leur agenda. C'est normal que le ministre des Finances, en personne politique responsable, informe les uns les autres et pour que peut-être appeler chacun à la réflexion pour voir comment, aussi bien en travaillant sur le budget qu'en travaillant aussi peut-être sur l'économie réelle, c'est-à-dire les activités économiques réelles, l'agriculture, l'élevage, etc., on puisse trouver des issues pour que le budget de l'État puisse faire face à ces dépenses. Je reviendrai.
Oui, on y revient. On y revient un à un pour mieux
vous illustrer
effectivement
ce que ça va nous produire comme choc.
Monsieur Ntuya Bella, au nom de parti au pouvoir, est-ce que cette annonce du ministre des Finances vous a aussi surpris?
Non, pas du tout. Ça ne me surprend pas. Je pense que, vous savez, le budget élaboré au cours de l'année, voté par les parlementaires, une chose est de voter et autre chose aussi de mettre en œuvre la loi de finances. Et dans sa mise en œuvre, une loi ou un texte juridique peut rencontrer aussi des difficultés. Et donc, compte tenu de ce que le président Ziguele a décrit tout à l'heure, de difficultés qui découlent de la crise en Occident, naturellement, la mise en œuvre de la loi de finances votée par la représentation nationale risque de connaître des difficultés. Et donc, c'est en amont, puisque là, on est en train de tendre vers la moitié de l'année 2022. Et donc, d'ici là, le ministre des Finances a conféré, au lendemain de son retour de Washington, parce qu'ils étaient au sommet, une rencontre avec les institutions de Bretton Woods. Et donc, au retour, et par rapport à l'analyse du contexte international, donc, il a essayé de travailler, donc, de préparer, puisqu'il a des techniciens, de communiquer un peu au regard du contexte, et dans le contexte international difficile que nous traversons. Et donc, il a communiqué pour qu'en amont, on commence déjà à réfléchir, puisqu'on va aller vers le budget, à mi-parcours. On va revoir le budget à partir du mois de juillet. Et donc, c'est dans pour le collectif budgétaire. Parce qu'on va aller vers le collectif budgétaire. Et donc, il a déjà conféré avec ses cadres pour donner des pistes de réflexion pour permettre de parer. Parce qu'il y a des coûts qu'on va recevoir. Et donc, il faut anticiper sur les événements. Et donc, il a communiqué là-dessus. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on peut adopter, mais je crois que la mise en œuvre pour tout texte peut connaître aussi des impondérables. Ce qu'on appelle des impondérables. Des situations auxquelles on ne pensait pas, et bien donc qui se produisent et qui peuvent avoir des répercussions dans la mise en œuvre de tout programme, de tout projet. Voilà, donc il faut quand même se préparer. On va dire que donc, ce n'est pas rectiligne. Tout ce qu'on a prévu, est-ce que bon, ça va se dérouler comme ça facilement? Il y a toujours des impondérables qui interviennent dans la mise en œuvre des textes.
On va écouter M. Ongtiga dans cette discussion démocratique. Cette difficile condition financière s'est accentuée par le retrait ou la suspension des appuis budgétaires extérieurs. À quand le Centrafrique sera-t-il vraiment indépendant sur le plan financier, si vous voulez bien?
Merci M. Armando. Je voudrais également remercier le président Ziguele et le conseiller pour aller un peu dans le sens qui a déjà commencé. Je crois que l'indépendance financière et économique de la Centrafrique a déjà commencé. Ça a déjà commencé en ce sens que nous sommes tous témoins qu'une loi a été votée tout récemment par rapport à la crypto-monnaie. Moi, je crois que c'est toujours dans ce sens-là. Et nous ne sommes pas sans savoir que le monde entier traverse une période difficile due en partie à cause de la situation entre la Russie et l'Ukraine et également nous, en tant que Centrafricains, par rapport à l'annonce qui a été faite par le ministre des Finances, nous subissons en partie notre posture politique en tant qu'État vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Occident. Donc, quand nous subissons cela, je crois que quand même, lorsque on te met la pression, tu dois réfléchir pour trouver des voies et moyens pour sortir de cette pression-là. Et donc, je crois quand même que la situation est déjà là. Nous allons y remédier. La solution ne va pas plaire à tout le monde, mais ce qui importe, c'est que nous sortons de cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
Beaucoup d'observateurs sociaux accusent la mauvaise gouvernance du régime Touadéra qui, selon eux, a engendré la crise financière. Monsieur Ndoui Yabela, qu'en dites-vous?
Dans quel sens ça? Je ne comprends pas. Il faudrait qu'on aille un peu en profondeur. Quelle mauvaise politique pourrait engendrer la crise? Là, on vient de le dire, jusque le président Ziguele a bien planté le décor. Les réalités sont là et puis bon, on a des phénomènes externes qui viennent perturber la mise en œuvre du budget de l'État. Est-ce que c'est la mauvaise politique? Est-ce que le budget n'a pas été voté à temps? Le gouvernement a fait son travail. Maintenant, c'est dans la mise en œuvre que des éléments extérieurs viennent perturber. Alors, on va croire que c'est la mauvaise gouvernance, etc. Non. Est-ce que le fait d'adopter, par exemple, est-ce que c'est une mauvaise... C'est là, peut-être je vais rejoindre Antiga. Est-ce que le fait d'adopter cette monnaie, crypto-monnaie, est une mauvaise gouvernance en soi? Je me pose la question. Est-ce qu'un gouvernement normal d'un pays peut prendre des dispositions ou faire voter des textes allant dans le sens de créer des difficultés à sa population? On a un ancien premier ministre là parmi nous. Est-ce que véritablement le rôle d'un dirigeant, c'est d'adopter des textes allant dans le mauvais sens? Il l'a dit tout à l'heure. Nous sommes en présence des situations, on sort des conflits, et puis il y a des conflits qui se créent en Europe. Mais comment faire pour contourner? Et donc le gouvernement réfléchit, il dit, bon voilà, il faut mettre en place cette crypto-monnaie pour essayer de... Et donc on l'a remarqué tout à l'heure.
On y arrive pour la crypto-monnaie. Hein.
Voilà, d'accord, ok.
On y arrive, voilà. Si vous me permettez. Nous allons donc suivre l'allocution du Premier ministre Félix Tshisekedi qui a effectué un voyage de plaidoyer aux États-Unis la semaine dernière. Voilà, on écoute ce qu'il va dire et de cette question de la mauvaise gouvernance.
Vous savez que le véritable problème, c'est la gouvernance de cet appui budgétaire que d'aucuns pensent qu'il pourrait être utilisé autrement. Mais vu les explications que nous avons apportées et l'assurance dont nous avons fait montre vis-à-vis des autorités américaines, celles-ci sont disposées à revoir leur position. En tout cas, ce qui concerne la Banque mondiale, parce qu'elles nous ont dit qu'elles financent la Banque mondiale. Mais maintenant, du côté de l'Union européenne, on poursuivra les échanges. Effectivement, nous trouverons certainement un plan B si, effectivement, le plan A n'arrive pas à aboutir. Parce qu'au fait, le véritable problème aussi, non seulement si nous n'avons pas les appuis budgétaires, est-ce que nous allons continuer dans le programme de référence pour aller vers la facilité élargie de crédit, pour renouer avec le Fonds monétaire? C'était des questions cruciales qu'il fallait donc apporter des solutions. Le Fonds monétaire nous a rassuré, après ces discussions, que nous pourrions, dans le cas d'espèce, si nous poursuivons les efforts avec le programme de référence, d'ici juillet, nous reprendrons avec la FEC, la facilité élargie de crédit. Les États-Unis ont dit qu'ils peuvent revoir leur position, mais nous allons poursuivre les échanges avec l'ambassadeur des États-Unis ici en Centrafrique.
Voilà, c'était donc Félix Tshisekedi, le Premier ministre centrafricain, qui accuse en quelque sorte la gouvernance de ce tapis budgétaire. Et c'est ce que les partenaires, c'est-à-dire la Banque mondiale, l'Union européenne, la France, etc., ont pris comme prétexte pour sanctionner le pays. Et le Premier ministre en a relevé avec regret, M. Tshisekedi.
Si, je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Lorsque vous posez la question de savoir pourquoi nous avons des difficultés budgétaires qui ont conduit le ministre des Finances à annoncer des coupes budgétaires, je pense que votre question avait pour objectif d'identifier les causes de cette situation. Ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. La crypto-monnaie ne crée pas de la richesse. La crypto-monnaie, c'est un moyen d'échange virtuel, c'est-à-dire qui se passe sur informatique. Et la crypto-monnaie ne peut pas être une solution à un problème parce qu'il faut de l'argent pour échanger. Mais l'argent ne crée pas, ipso facto, en elle-même, de la richesse. C'est la richesse qui fait développer un pays. Ce n'est pas la crypto-monnaie, ni aucune autre monnaie. Je voudrais qu'on évite de faire de faux débats sur des questions d'indépendance financière et tout. Lorsque vous êtes avant-dernier pays en matière de développement humain, vous ne pouvez pas parler d'indépendance financière par rapport à ces débats. Je pense que le problème des Centrafricains, c'est d'éviter ce que les gens appellent le citacisme, c'est-à-dire de répéter comme un perroquet des choses qui n'ont rien à voir avec nos réalités et de regarder la réalité en face. Et je suis très, très ferme là-dessus. Pourquoi nous avons des problèmes de budget? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, j'allais même dire depuis plusieurs décennies, le budget de la RCA se caractérise par une situation structurelle anormale, c'est-à-dire les ressources propres de l'État, c'est-à-dire ce que l'État collecte à travers la douane, les impôts et les trésors, sont toujours faibles et n'arrivent pas à financer nos dépenses internes, nos dépenses primaires. Je vous prends comme exemple le budget 2022 que le ministre des Finances, à juste titre, demande à réviser à la baisse. Les ressources totales prévues dans ce budget-là de 2022 sont de 298,2 milliards. Exactement. Sur les 298 milliards de prévisions, il y en a 138 uniquement qui sont les ressources propres de l'État. C'est-à-dire à peu près 40% de ces ressources-là proviennent de l'État, dont 69 milliards pour la douane, 64 milliards pour la douane, 50 et quelques milliards pour les impôts, etc. Mais dans ce budget, 160,2 milliards proviennent de ressources extérieures, c'est-à-dire de l'argent qui, d'une manière ou d'une autre, est alloué à la République centrafricaine en tant que pays. Et dans cet argent, 69,2 milliards constituent ce qu'on appelle l'appui budgétaire. C'est-à-dire, c'est un don sans fléchage. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, vous prenez ça pour faire telle chose. Vous l'utilisez comme des ressources du trésor. Et nous avons toujours fonctionné
avec cet appui budgétaire. Je vais vous donner un deuxième exemple. C'est-à-dire pour que l'État centrafricain fonctionne normalement en 2022, il lui fallait 195 milliards de francs CFA. Et si vous y ajoutez la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que nous payons sur la dette, qui sont à peu près de 6 milliards, on arrive à 201 milliards de dépenses incompressibles de l'État. En face, nos ressources, nos prévisions de ressources, j'insiste sur le mot prévision, sont de 138 milliards. Ça veut dire que si vous enlevez les concours extérieurs, si nous devons compter sur nous-mêmes, nous avons deux choses à faire. Soit augmenter les recettes pour les 7 mois de l'année qui restent à hauteur de 201 milliards de francs CFA, c'est-à-dire trouver des recettes complémentaires de 73 milliards de francs CFA, soit réduire les dépenses de manière drastique pour que les recettes puissent permettre de couvrir les dépenses. C'est ça la problématique. Quels sont les chemins qui sont possibles ? Quels sont les chemins qui sont possibles ? Et si j'ai bien compris le ministre des Finances, le chemin qu'il veut emprunter, c'est celui de la réduction d'un certain nombre de dépenses. Ça veut dire quoi ? Quand l'État, qui est le premier signataire de la commande publique, c'est-à-dire c'est lui qui offre le plus d'activités aux entrepreneurs, lorsqu'il diminue les dépenses, ça veut dire qu'il y a des projets d'investissement qui vont s'arrêter. Ça veut dire qu'il y a des écoles qui vont s'arrêter d'être construites. Ça veut dire qu'il y a des centres de santé qu'on ne va plus construire. Ça veut dire que les entreprises qui ont ces marchés-là ne seront plus payées. Ça veut dire qu'il y aura un recul de l'activité économique. Et quand il y a un recul de l'activité économique, ce qu'on appelle, je ne parle pas de récession, même un simple recul de l'activité économique fait que le niveau des prévisions de ressources aussi diminue. Ça veut dire qu'on n'aura même pas atteint les 138 milliards. C'est pour ça que le sujet est d'importance. La deuxième question, c'est de savoir comment est constitué l'appui budgétaire. Qui nous donne l'appui budgétaire ? Le premier, c'est l'Union européenne. En volume, premier bailleur, c'est l'Union européenne. Deuxième bailleur, c'est la Banque mondiale. Troisième bailleur, c'est la France, en matière d'appui budgétaire. Contrairement à ce qui se raconte, c'est la Banque mondiale qui donne le volume d'appui budgétaire le plus important. Donc, je pense que si vous voulez résoudre un problème, il faut en rechercher la cause. Et c'est à notre gouvernement, et c'est pour ça que le gouvernement est élu, mis en place, c'est de chercher à savoir pourquoi ceux qui nous donnaient l'appui budgétaire, qui ont mobilisé plus de 1,3 milliard de dollars pour nous aider il y a moins de 5 ans, aujourd'hui sont sur cette position. S'il faut le discuter politiquement ou diplomatiquement, il faut le faire. Parce que c'est une question mathématique, j'allais dire. Notre économie, aujourd'hui, n'a pas la capacité de générer les ressources qui nous permettraient de faire face à ces dépenses primaires. C'est ça. Quelle est la conséquence pour M. Ndouyabela, pour M. Omtuga et moi ? C'est-à-dire que si nous sommes salariés, il y aura un moment où les salaires ne pourront plus être payés. C'est ça la vérité. Les pensions ne pourront plus être payées. Donc, il faut trouver une solution. Si la solution est politique, elle relève des autorités en place et il faut qu'elle trouve la solution. On n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui est un diable. On cherche les causes, on identifie les causes et on voit quelles sont les solutions.
On n'est pas dans cette logique-là. Voilà, c'est ça. Je vois que vous avez bien fait le planquer.
Oui, mais en écoutant le Premier ministre, apparemment, certains partenaires durcissent leur position et la justifiant par la présence des mercenaires russes du groupe Wagner. Peut-on dire que c'est un prétexte hors contexte pour contraindre le président Touadéra ?
On peut l'interpréter ainsi. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, parce que là, pourquoi cette prise de position particulière vis-à-vis de la puissance africaine.
Et M. Ziguele, les partenaires extérieurs, tout à l'heure de la cause.
Oui, la cause, bon, ça c'est ce que nous, citoyens centrafricains,
l'une des raisons avancées par le partenaire.
Oui, on dit, mais ça c'est leur raison. Est-ce qu'il est interdit à un pays de diversifier ses relations, ou bien sa diplomatie ? Est-ce que le fait que la RCA ait tendu la main à la Russie pour venir la sauver dans des situations difficiles, est-ce que ça doit être une cause de rétention quelque part ? Donc c'est cette position-là que nous ne comprenons pas. Vous voyez, avec le FMI et Banque mondiale, on a un point de vue positif des institutions de Bretton Woods. Le point d'achèvement, ça a été avec succès. Et là même récemment, il a dit, je crois qu'avant-hier, il y a une lettre qui est arrivée que la Banque mondiale, au-delà de tout ce qu'on raconte, a accordé une aide de 35 millions de dollars américains à la République centrafricaine. Si la Banque mondiale, comme il a dit, grand partenaire et qui est de grand donateur de la République centrafricaine, là au lendemain, là c'est récent, je pense que c'est d'hier, 35 millions de dollars alloués à l'État centrafricain. Et non, il ne peut pas avoir rupture de fonctionnement de l'État, il ne peut pas avoir, non. Tout ce que l'aide accordée justement par la Banque mondiale, c'est justement pour aider l'État à faire face à un certain nombre de besoins. Mais alors maintenant, du côté de l'Union européenne, on fait une fixation sur les mercenaires russes. Bon, là, c'est une prise de position vraiment hautement politicienne qu'on ne saurait apprécier ici. Donc, c'est assez complexe, puis ça relève de la diplomatie. Est-ce que, bon, on doit se prononcer là-dessus, voilà. Donc, il appartient aux autorités centrafricaines de voir comment aller sur la table de négociation et voir comment on peut redonner, faire revenir les partenaires traditionnels pour qu'ils puissent appuyer. On l'a dit, c'est vrai que c'est clair, la majorité du budget, les ressources de l'État, est constituée de l'aide extérieure. Et donc, à partir du moment où on n'a rien à l'intérieur, il n'y a pas de recettes pour financer au niveau interne, on a besoin de ces appuis budgétaires. Ça a été toujours fait depuis longtemps. Et puis, bon, est-ce qu'on doit se conforter dans cette situation? Voilà. Donc, il faut chercher des voies de moyens pour contourner. Donc, c'est à nous, mais tous ensemble, de mobiliser nos compétences, que ce soit de l'opposition. On est face à une situation qui interpelle la nation. Une union sacrée devait être trouvée pour identifier.
Et qui devait provoquer cette union?
Mais le gouvernement, on n'a pas besoin de provoquer l'union. L'union, déjà même au niveau de l'Assemblée nationale, les hommes politiques, tout ça devait se concerter. Et union sacrée, on est face à une situation, on ne peut pas. Et quoi faire? Comment mobiliser nos talents pour faire face à cette situation? Et donc, comme il a dit, on n'est pas là pour incriminer et jeter l'anathème sur tel ou tel. C'est une situation qui arrive et que nous, ensemble, fils de ce pays, si nous aimons notre pays au-delà de nos clivages, on devait se rassembler pour réfléchir et trouver des solutions avec le gouvernement en place pour parer à la situation.
Monsieur Antiga, si Monsieur Moloua s'inquiète, se demande si les partenaires vont poursuivre le programme de référence afin de permettre au gouvernement d'aller vers la facilité élargie de crédit, ce qui veut dire que le ministre des Finances a raison de communiquer officiellement sur cette affaire pour éclairer l'opinion nationale.
Exactement, Monsieur Armando. Mais je crois que j'ai des points soulevés d'abord.
Mais est-ce que vous voudriez bien commencer par ma question là avant de revenir sur les points que vous voulez?
C'est normal que le ministre des Finances s'inquiète. Et je crois que son annonce, c'est son inquiétude. Il veut quand même informer la population. S'il est arrivé qu'il y a cessation du paiement des salaires, sachez que c'est parce que l'appui budgétaire a été suspendu. Mais tout à l'heure, le Premier ministre a parlé de la mauvaise gouvernance. Et le président Zigeli a parlé du mauvais débat. Il y a une nuance là. J'ai des points à soulever dans ce sens. La mauvaise gouvernance dont parlait le Premier ministre Moloua, je crois que tout le monde quand même sait.
Avec précision, si ça vous va bien, Monsieur Moloua, le Premier ministre parlait des raisons avancées par les partenaires qui parlent de mauvaise gouvernance.
Vous savez, font de la politique. Les partenaires font de la politique. Tout le monde sait aujourd'hui la vraie raison, parce que moi j'avais suivi ce matin, il parlait du financement des dépenses liées à la sécurité qui ne sont pas mentionnées. Lorsque nous parlons des dépenses liées à la sécurité qui ne sont pas mentionnées, tout le monde sait aujourd'hui de quoi il s'agit. Ok, si on sait de quoi il s'agit et que eux ils prennent ça comme un argument pour nous bloquer, ça ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont raison? Je crois que la richesse ne se donne pas, la richesse se crée. Et si nous sommes toujours dans la posture du mendiant qui espère tout des autres, c'est normal qu'on se plaint lorsqu'ils disent maintenant nous ne voulons plus vous accompagner. Mais si nous sommes un pays, bon, je suis quand même heureux d'être en face d'un ancien Premier ministre qui était du pouvoir et d'un conseiller aujourd'hui également du pouvoir. Donc, les deux qui sont là et moi qui suis un centrafricain, ok, je suis en face de vous et je voudrais quand même que vous soyez un peu vrai et un peu réel vis-à-vis de nous. La richesse se crée. Mais est-ce qu'il y a une politique pour la création de la richesse? Moi, je n'en vois pas. Déjà, quand on dit on crée la richesse, et vous avez dit tout à l'heure que notre pays se finance à base de fiscalité. Donc, nous sommes un pays à régime fiscal. Si nous sommes un pays à régime fiscal, on doit favoriser la création d'entreprises locales. Ce qui ne se fait pas. Vous allez prendre les taxes, les impôts sur quelle entreprise qui ne se crée pas. Déjà que pour créer une entreprise en Centrafrique, il faut dépenser au moins 250 000. Mais vous êtes dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, avec 10 000 francs, tu crées une entreprise. Donc déjà, le cadre de vie qu'il faut pour que les gens créent leur entreprise, ce cadre n'est pas créé. Et aujourd'hui, on se plaint du fait que le FMI, la Banque mondiale, refuse de nous appuyer. Il faut quand même qu'on ne fasse pas le faux débat. Parce que là, c'est ça le faux débat. Le vrai débat aujourd'hui, c'est ok, s'ils ne veulent pas nous accompagner, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sera pas, on ne va pas se starve, on ne va pas s'affamer parce qu'ils ont refusé de nous donner à manger. Mais aidez-nous, créez-nous le cadre de vie, le cadre qu'il faut pour que la population lambda puisse bien vivre. Parce que la population est top pour moi. Parce que vous voyez, déjà, il n'y a pas l'entrepreneuriat au pays. D'autres pays autour de nous, on voit des étrangers qui viennent faire l'entrepreneuriat ici. Et ces entreprises, la plupart de ces étrangers, la plupart, ils sont dans l'informel. Donc, ils ne paient pas les taxes. Ils ne paient pas les taxes. Le gouvernement sait bien. Les opposants le savent bien. Mais pour faire le vrai débat, pour amener peut-être le gouvernement, dire, écoutez, il y a tel problème qui est là, agissez de tel ou de tel côté, on ne le fait pas. Mais lorsque c'est un point où je sais que, bon, comment je vais soulever ma voix,
tout le monde saura que j'ai parlé de quelque chose, ça va me donner du crédit, mais ça ne fait pas développer un pays. Vous voyez, je suis bien content, je crois que le conseiller, vous êtes professeur de droit. Donc le président Zigelé doit au moins, au-delà de sa posture d'opposant politique, il est un homme politique. Étant un homme politique, même si je ne suis pas au pouvoir, je dois travailler pour que le pays avance. Parce que ce n'est pas...
Qui vous dit que je ne travaille pas pour le pays?
Je n'ai pas dit que vous ne le faites pas.
Le fait même de participer à ce débat,
c'est une contribution au pays.
Mettez un peu d'ordre dans vos idées pour que nous puissions peut-être avoir le temps d'expliquer ce qui se passe et d'arriver à des propositions de solutions.
Laissez-moi au moins aller au bout de mes idées parce que c'est dans une logique que je suis en train d'aller. On se plaint déjà du fait qu'il n'y a pas la pub budgétaire a été suspendue, mais il faut qu'on crée la richesse.
Vous revenez un peu sur la question de la mauvaise gouvernance dont faisait allusion tout à l'heure le Premier ministre Mouloua dans sa déclaration.
Oui. En fait, la mauvaise gouvernance, c'est ça que moi j'étais en train de dire déjà. Dans ce cadre, on doit créer le cadre de vie. Si le cadre de vie ne se crée pas, pour que les entreprises se développent correctement dans notre pays, c'est une mauvaise gouvernance. Ce n'est pas seulement le fait que peut-être...
Parle de mauvaise gouvernance dans la gestion des fonds alloués.
Il y a deux aspects. Moi, je pense deux aspects. Les autres, c'est-à-dire les bailleurs, eux, ils parlent de mauvaise gouvernance dans le sens que la ligne budgétaire peut-être qui a été allouée à une activité a été détournée pour la sécurité. Parce qu'il faut qu'on soit, terre à terre. Le réel problème, c'est qu'il y a eu de financement, il y a un appui. C'est-à-dire, on paye les Russes et la Banque mondiale veut savoir d'où vient l'argent qui a servi à payer les Russes. Est-ce que c'est leur argent ou bien c'est quel fonds? C'est tout le problème qui est là. Mais est-ce que nous, on va en faire un débat?
Mais si ce n'est pas un débat, mais déjà si on suspend à cause de ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'on peut faire un débat.
Si on suspend, comment faire pour vivre? Parce que le truc, c'est quoi? La population doit vivre. Moi, je suis un sous-trafiquant, je dois
finissez vivre. Quelques secondes, vous avez quelques secondes à terminer.
Exactement. Donc, créez-nous le cadre de vie pour qu'on puisse créer la ressource dans notre pays. Parce qu'une ressource importée, c'est une dette qu'on sera obligé de payer. Donc, en réalité, moi, je crois que la suspension de l'appui est une aide parce qu'ils veulent que nous-mêmes, nous créions nos
ressources. Oui, monsieur Zigelé, vous voulez rebondir tout à l'heure.
Non, je voulais qu'on remette un peu de l'ordre dans le débat. C'est juste parce que, à mon sens, le sens du débat, c'est de dire le ministre des Finances a fait une annonce de difficultés budgétaires qui vont entraîner des coupes dans le budget de l'État. Nous serons donc face à des charges qu'il faut financer. Et nous avons en face une insuffisance de ressources. D'abord, à quoi c'est dû, c'est-à-dire les causes. Et qu'est-ce que nous, ici, chacun avec sa vision, peut modestement et humblement contribuer à des ébauches de solutions, parce que c'est l'exécutif qui met en œuvre les solutions. Ça, c'est d'un. Deux, je voudrais clarifier quelque chose dans l'esprit des uns et des autres. Les appuis budgétaires, c'est-à-dire l'aide budgétaire, n'a rien à voir avec les dons projets. Et ce dont mon frère, le professeur Ndou Yabel, a parlé ici, en évoquant le projet de la Banque mondiale, c'est un don projet. C'est-à-dire que l'appui budgétaire, c'est comme la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est le projet que la communauté internationale, la Banque mondiale, la BAD, la B2AC, peut financer un projet. Et si ces institutions estiment qu'il faut soutenir aussi le budget de l'État directement, sans que ça aille vers un projet précis, ils le font dans le cadre de l'appui budgétaire. Et c'est de l'appui budgétaire que nous parlons ici. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour remercier la Banque mondiale d'avoir fait ce prêt, d'avoir continué jusqu'au bout ce projet de 35 milliards qui est destiné à l'amélioration du climat des affaires. Donc, parce que la Banque mondiale, dans son analyse, a bien vu que notre pays était désert en matière d'entrepreneuriat. Parce que pour avoir les ressources budgétaires, il faut avoir l'écosystème économique d'entreprise qui permette de participer au paiement du budget, au renflouement du budget. Je voudrais que ces choses-là soient dites. Quand, dans un débat, on dit « si nous aimons notre pays », moi, je trouve cette expression un peu curieuse. C'est comme si vous demandez à un enfant « est-ce que tu aimes ta mère ?» Mais tout le monde aime sa maman. Tout le monde aime son pays. Mais il faut qu'on ait l'habitude de dire, quand il y a un problème, quelles ont été les causes et les conséquences. Je vous ai dit tantôt que les appuis budgétaires, c'est une libéralité, comme on dit en droit. C'est-à-dire, je te donne de l'argent, tu en fais ce que tu veux. Mais ceux qui donnent cet argent veulent savoir est-ce que tu l'utilises par rapport à tes priorités. C'est-à-dire pour aider ton pays à avancer, pour que progressivement, tu ne sollicites plus l'appui budgétaire. L'objectif de l'appui budgétaire...
Et donc, l'appui budgétaire ne doit pas rester constant.
Oui, l'appui budgétaire n'est pas éternel. C'est pour vous aider à développer l'économie du pays, l'économie réelle, les activités économiques pour que les entreprises de ce pays-là puissent un jour supporter une grande partie du budget. Et donc, la vocation de l'appui budgétaire, c'est d'aller en s'amenuisant jusqu'à ce que vous puissiez financer votre budget. Autonome. En tout cas, les dépenses primaires par rapport à vos propres ressources. C'est pour ça que vous avez dans le budget la notion du solde primaire. Le solde primaire budgétaire, c'est ça l'élément que le FMI utilise pour analyser ce qu'on appelle la viabilité financière d'un pays. C'est-à-dire, vous avez 138 milliards de recettes et 200 milliards de dépenses. La différence fait 50 quelques milliards. Donc, le but de l'opération de la facilité d'élargir le crédit, là, c'est de vous amener en sorte que, en faisant les réformes économiques et financières dans votre pays, vous arrivez à un instant T, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, où les recettes, les ressources propres de l'État soient supérieures aux dépenses primaires de l'État, y compris la charge de la dette. C'est-à-dire, c'est comme vous allez, monsieur Armando, vous avez une femme et des enfants. Vous gagnez 100 000 francs par mois. Au moment où je parle, vos dépenses sont de 150 000. Et puis vous avez votre banque qui vous prête de l'argent. Et il vous dit, Armando, faites attention. Trouvez peut-être une activité génératrice de revenus. Supprimez certaines dépenses. Faites tout pour que vos dépenses mensuelles reviennent en deçà des 100 000 qui est votre salaire. C'est le même exercice que le Fonds monétaire international et les bailleurs de fonds font pour un État. Vos recettes 2022 sont de 138 milliards. Vos dépenses sont de 200 milliards. Moi, je vous donne la différence. Mais vous faites les réformes pour que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, vos ressources ne soient plus de 138 milliards, mais peut-être de 200 milliards et puissent couvrir vos dépenses. C'est ça l'opération. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, il y a un principe en droit budgétaire qu'on appelle la fongibilité du budget. C'est-à-dire, si vous gagnez 100 000 francs par mois et que vos dépenses sont de 150 000, je vous donne 50 000. C'est vous qui le gérez. Mais vous le gérez pour payer toutes les dépenses que vous estimez urgentes chez vous. Et l'exercice que font les bailleurs de fonds internationaux, c'est de demander à l'État centrafricain l'appui budgétaire qu'on vous a donné, qu'est-ce que vous en avez fait.
C'est comme un compte rendu. Ou bien
voilà, c'est eux qui ont donné l'argent. Ils ont dit, qu'est-ce que vous en avez fait. Si vous avez utilisé l'argent, et c'est le professeur Ndouye Diabira qui a avancé le terme, c'est pas l'opposant Zigiri, il a parlé des mercenaires russes. Si vous utilisez le budget de l'État pour payer des mercenaires, celui qui a donné l'argent dit non. Je vais donner l'argent pour aider les centrafricains, pour payer les réformes de sécurité ou les moyens de sécurité des militaires de l'État centrafricain, pas pour payer des personnes qui ont vendu leurs services pour de bonnes ou de mauvaises causes, peu importe. C'est ça le principe. Vous qui êtes jeune, vous savez que tout ce qu'un père de famille apprend à son enfant, c'est d'être toujours digne, n'est-ce pas? Et la dignité, ça consiste à quoi? La dignité, ça consiste à ce que vous assuriez vos besoins et que vous n'alliez pas vers la mendicité. Moi, mon père spirituel en politique, c'est Ange Félix Patassé. C'est lui qui a dit qu'il ne faut jamais tendre la main de mendiant. Mais pour ne pas tendre la main de mendiant, il y a plusieurs conditions. Il faut savoir ce que c'est que l'économie. Comment on crée de la richesse? Ça, c'est la première question. La première condition, c'est qu'il faut avoir chez vous ce que vous demandez chez les autres. C'est-à-dire qu'il faut créer une économie. Et
quelques secondes.
Et l'économie, c'est un domaine où il faut créer des richesses. Il faut créer l'environnement pour créer des richesses. Il faut aider ceux qui ont le sens ou le génie pour créer les richesses. Après, il faut les transformer. Regardez le budget de tous les pays de paiement de la CEMAC. Le poste du budget le plus important, c'est la TVA. La TVA, c'est quoi? C'est l'impôt à la consommation. Il faut qu'il y ait des entreprises qui transforment le coton, l'huile, je ne sais pas quoi, comme Mokaf fait la bière. C'est Mokaf seul qui paye la plus grosse TVA en RCA. Pourquoi? Parce qu'elle fait de la bière et c'est la seule usine. Il faut qu'il y ait beaucoup d'usines, donc il faut un climat des affaires. Un climat des affaires, ça veut dire qu'il faut que Ndouye Abela ne considère pas Zigiri comme son ennemi et que Zigiri ne considère pas Ndouye Abela comme son ennemi. Parce que si je considère Ndouye Abela comme mon ennemi, s'il a de l'argent et il veut créer quelque chose, il va dire « Ah, si je crée ça, Zigiri va monter des gens, ils vont venir me brûler ça. » C'est tout un ensemble de décisions rationnelles et irrationnelles qui font qu'on crée une économie. Et moi, je vais vous dire ce que je pense qu'il faut faire dans le court terme. Parce que si on réduit les dépenses budgétaires et qu'on ne paye que des salaires à des fonctionnaires qui n'ont pas les moyens de travailler, ça veut dire que l'État paye des gens qui ne travailleront pas. Comment faire pour que on paye des salaires avec aussi des moyens de travail pour que les gens travaillent? Parce que si je vous paye et que vous ne travaillez pas, j'ai résolu votre problème à vous, mais je n'ai pas résolu le problème du pays. Parce qu'il faut que les écoles marchent, il faut que les entreprises tournent, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut les routes, il faut l'eau, etc. Et ça se finance dans les investissements.
Voilà, cependant, afin de trouver un palliatif, comme vous l'avez dit, hein, ou bien des solutions, l'Assemblée nationale, vous, en tant que député, sous l'initiative du gouvernement, a voté la loi sur la crypto-monnaie, une monnaie virtuelle, aussi appelée Bitcoin. On en parle avec Igor Toscan-Senapaï.
Avant le débat général pour le vote de cette loi, les députés Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé et Rachel Ngakola, tous membres de la commission finance, ont adressé une lettre à leur père pour protester contre l'adoption de cette loi en République centrafricaine. Selon les mécontents, la République court le risque de la propagation du blanchiment d'argent, fraude fiscale, escroquerie et financement du terrorisme. Cette situation risque, selon eux, de compromettre les appuis budgétaires et les décaissements des institutions financières internationales à la RCA. Rachel Ngakola, députée de Bambari 1.
Mais de quoi ont-ils peur? Nous parlons de la République, de la nation. Nous avons demandé des garanties. On ne refuse pas ça. Mais on leur a demandé de s'entourer de toutes les garanties avant de prendre une telle loi. Les gens sont tellement pressés. Alors, ils vont aller vite en besogne. Et j'ai préféré ne pas cautionner ça.
Le gouvernement estime pour sa part que cette loi permettra de contrer les obstacles d'accès au financement afin de faire face aux charges régaliennes de l'État. Justin Gournazako, ministre de la Poste et des télécommunications, salue le vote des députés.
Nous avons travaillé avec des juristes, nous avons travaillé avec des financiers qui nous ont dit qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les textes internationaux et nos textes. La République démocratique du Congo est en voie, le Cameroun est en voie, le Congo même, mon collègue M. Imbombo est en voie de faire passer ça. Nous, on a anticipé.
Selon les experts, la crypto-monnaie est un type de monnaie numérique avec laquelle les usagers peuvent acheter des biens ou des services. Elles peuvent être échangées ou faire l'objet d'investissements, mais sont extrêmement volatiles. En Afrique centrale, la RCA est le premier pays à adopter une loi sur la crypto-monnaie, un mécanisme financier encore non validé par la Banque centrale.
Voilà, merci beaucoup Igor Jaskansinapa et parole à vous Monsieur Diébéni Ontiga. Que connaissez-vous de la crypto-monnaie?
La crypto-monnaie, comme le nom l'indique, est une monnaie cryptée, c'est une monnaie électronique, c'est une monnaie qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on utilise foncièrement à base de la connexion Internet. On peut l'utiliser partout. C'est international. C'est une monnaie globale. Okay? Donc, n'importe où tu es, tu peux l'utiliser. Et c'est basé sur la technologie de blockchain. Et je crois que c'est là beaucoup de personnes se posent la question de savoir la blockchain. La blockchain n'est pas la crypto-monnaie. Okay? On utilise juste la technologie de la blockchain pour faire de la crypto-monnaie. La blockchain, c'est une technologie qui nous permet de transmettre, de stocker de l'information de manière sécurisée, fiable. Mais sans gouvernance, c'est-à-dire sans contrôle externe. C'est ça la technologie de la blockchain. Et c'est à base de cette technologie maintenant qu'on fait la crypto-monnaie. Et dans la crypto-monnaie, nous avons également le Bitcoin. Le Bitcoin, ce n'est pas la seule crypto-monnaie qui existe, mais c'est ce qui est le plus répandu. Parce que c'est par le Bitcoin que nous avons commencé à utiliser la crypto-monnaie en 2009. Okay, donc, c'est de façon globale. Voilà ce que nous pouvons dire.
Maintenant, ça c'est purement technique. Revenons sur le plan centrafricain. Quel est le bien de cette monnaie pour la représentation africaine, puisque vous avez compris que tout ce que nous avons posé comme problème financier, le gouvernement est en train de vouloir contourner ce problème. C'est ça, on est arrivé aujourd'hui à la crypto-monnaie.
Ok, merci. Quel est le bien pour la République centrafricaine? Je crois d'abord que c'était une décision politique de voter une loi. Et je crois quand même qu'avant le vote d'une loi, avant de prendre une décision politique, il doit déjà y avoir une analyse politique. Je ne sais pas si ça a été fait ou bien ça n'a pas été fait. Mais pour moi, la loi est déjà votée. La crypto existait déjà avant cette loi. Moi, en tant qu'informaticien, je travaille avec la crypto même avant que la loi ne soit votée. Donc pour moi, ce n'est pas un problème, mais c'est plutôt une opportunité. Ça nous permet d'ouvrir notre climat des affaires. Parce qu'il y aura des investisseurs étrangers qui viendront. C'est un peu comme l'avait dit le président Ziguélé, la crypto-monnaie ne donne pas d'argent.
Ni
ce n'est
richesse,
pas parce que la loi a été votée que maintenant c'est fini, tout le monde devient riche. Non. Mais la crypto-monnaie, à cause de sa volatilité, quand je prends le Bitcoin, à cause de sa volatilité, ça nous offre plusieurs opportunités pour faire des affaires. Les gens se plaignent du fait que non, le Bitcoin est très volatile. Si tu mets peut-être 10 millions aujourd'hui, tu peux te retrouver à 1 million demain. C'est vrai. Mais nous avons également des cryptos stables. Vous voyez, il y a des cryptos comme le USDT qui sont des monnaies stables. Et lorsque nous mettons de l'argent sur Bitcoin et que ça prend de la valeur, nous on swap l'argent qui est de Bitcoin vers l'autre crypto-monnaie qui est stable pour qu'on puisse garder notre marge bénéficiaire. Donc, la crypto-monnaie est une opportunité pour créer de la richesse. mais elle ne donne pas la richesse.
Voilà, vous avez dit créer de la richesse, mais elle ne donne pas de la richesse. Oui. C'est un peu nuancé. Hein.
Voilà. C'est un peu elle nuancé, c'est plus technique. Ce n'est pas parce que la crypto est là que tu deviens riche.
Automatiquement. Oui,
mais ça crée de la richesse parce que c'est un moyen pour s'enrichir.
Voilà. Monsieur Ndouyabela, conseiller politique du Premier ministre, l'Assemblée a voté hein, par acclamation cette nouvelle loi. C'est bien sûr, politiquement, vous avez donné du conseil pour cela.
Politiquement, non.
Parce que vous êtes conseiller politique.
Le projet a été élaboré par l'Assemblée. L'initiative ne vient pas. Il ne faut pas faire la confusion.
Non, l'initiative
de loi peut venir de l'Assemblée nationale ou du gouvernement. Donc c'est un projet, quand ça vient de l'Assemblée nationale, c'est une initiative parlementaire. Ça vient du gouvernement, c'est un projet. Donc c'est un projet présenté par le gouvernement. Politiquement, ça a été discuté pour répondre à Dieu béni. Le gouvernement est un organe politique et donc ça a été discuté politiquement puisque tout membre du gouvernement est un homme politique. Donc politiquement, ils ont vu les tenants et les aboutissements, les avantages et les inconvénients avant de soumettre ça à l'approbation des parlementaires. Et donc ça a voté, je crois, techniquement, en tant qu'expert. Parole d'expert, parce que moi je ne suis pas spécialiste de la crypto-monnaie. Quand on a voté, bon, c'est vrai qu'il y a des pseudo-spécialistes qui se sont lancés là-dessus pour nous donner des explications sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, là Dieu nous a fourni une expérience. On dit voilà, c'est une opportunité qui se crée, mais ça ne crée pas la richesse. Et je crois que c'est même ce que le président Ziguilé a dit tout à l'heure. Et donc c'est une opportunité de créer. Oui, et donc, c'est pour ça que je reviens un peu à ma démonstration de tout à l'heure. Oui, mais si le gouvernement a opté pour cela, bon. Et encore, sur le plan de communautaire, parce que j'en dis, est-ce qu'en adoptant cela, est-ce qu'on veut effacer totalement le franc, donc c'est aller vers l'indépendance financière? Et là, vous avez clarifié la situation. Mais non, ce Bitcoin ne vient pas remplacer, par exemple, le franc CFA que nous utilisons. Je pense que c'est une monnaie qui va fonctionner, de mon point de vue, et à la lumière hein, des informations qui viennent d'être données, et de ce que moi, également, j'ai lu. C'est une monnaie qui vient, comme on le dit en droit, pas galvanisée, c'est à côté de... Parce qu'il y a la monnaie légale qui existe, qui est là. Un peu bon, il y a praeter legem, comme on le dit hein, en latin. Donc, c'est une monnaie qui fonctionne à côté de la monnaie qui est là. Parce qu'on a lu...
Mais le Bitcoin aussi est désormais une monnaie légale.
Une monnaie légale, voilà.
Donc, ça donc, vous n'êtes pas d'accord.
Non,
mais vous
ne
dites pas la même chose.
Moi, je dis...
Du point de vue fonctionnement... Du mais point de vue émission,
oui. La monnaie légale.
Légale, oui, ça veut dire monnaie légale.
Et ça, c'est ça le
mais problème. Mais si la loi a été adoptée, ça veut dire que nous arrivons à deux monnaies, c'est-à-dire le franc CFA et la crypto-monnaie ou le bitcoin.
C'est là où il y a le problème.
Ou bien
et c'est là où il y a le
problème. Oui, M. Omtiga, allez-y.
On a trois types de monnaie, ok.
Non, sur le plan centrafricain.
Sur le plan centrafricain, c'est ce que je suis en train de dire. Nous avons la monnaie de Dieu, qui est l'or et l'argent. Nous avons la monnaie des banques, la monnaie fiduciaire, ce que nous utilisons, nos comptes en banque et autres, tout ça. Mais là, nous avons la monnaie du peuple qui est la crypto-monnaie. Vous voyez un peu? On ne peut pas...
La monnaie du peuple. Hein.
La monnaie du peuple. C'est une monnaie, communiste, socialiste, si vous voulez le terme. Non, ce n'est pas une monnaie capitaliste.
Elle n'est pas socialiste du tout.
C'est une monnaie socialiste parce que ça fait du social.
Elle n'est pas socialiste du tout.
Selon sa compréhension.
La crypto-monnaie, ce n'est pas une monnaie que tu peux... Touché.
Ouais.
On aura forcément besoin de la banque pour faire le retrait. On fait le retrait par la banque. Parce que chaque bitcoin, chaque crypto-monnaie a une valeur fiduciaire. C'est-à-dire on l'évalue en dollars ou bien en euros ou bien en CFA ou bien autre. Donc on ne peut pas dire maintenant, comme j'ai le bitcoin, on s'en fout du CFA, on s'en fout de l'euro. Non.
Vous avez terminé, monsieur Ndjoué.
Monsieur Ziguele. J'allais dire que même du point de vue de la légalité communautaire, je crois que j'ai suivi le directeur des affaires juridiques de COSUMA. Il a dit... Il n'y a pas, jusqu'à l'ère actuelle, au point hein, de vue du droit communautaire CEMA, il n'y a pas une législation qui réglemente Bitcoin. Et donc peut-être ils sont en train, et donc c'est tous les États peuvent se lancer dans cette crypto-monnaie. Et d'ici l'année prochaine, on va mettre une réglementation pour encadrer justement le côté pervers. Parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'en faisant du Bitcoin, bon, on peut utiliser ça pour financer le terrorisme, etc. etc.
Voilà.
Et donc c'est le risque que ça court. Et donc au niveau communautaire, des dispositions seront prises pour encadrer hein, l'élan et l'engouement de tous les États.
Mais le terrorisme se finance aller. Même avec
voilà.
le CFA.
Ouais. Voilà, Monsieur Ziguele, pourquoi vous avez réglementé des réserves? Vous avez émis des réserves, Monsieur Ziguele, lors du vote de cette loi.
Non, je vous remercie de me donner l'opportunité de clarifier la démarche.
Ah, donc tout ce qu'on a dit là, c'est vraiment dans le...
Notre démarche, de clarifier notre démarche qui avons émis des réserves. Monsieur le professeur, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Je ne peux pas dire que vous avez parlé dans la confusion, puisque c'est un débat. Donc on
oui, c'est ça. Ok, d'accord. Non, j'ai compris.
J'allais clarifier pourquoi nous avons émis des réserves. D'abord, nous pensons qu'en matière de télécommunications, d'Internet, etc., la priorité pour notre pays, c'est de ressusciter Socatel et de faire en sorte que la RCA ne soit plus le seul pays au monde où il n'y a pas de téléphone fixe. Parce que l'opérateur de téléphonie fixe, c'était la Socatel. La Socatel est en difficulté depuis 15 ans et il me semble que la priorité pour un ministre de la Poste, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de Centrafricains ait accès à Internet, notamment par le téléphone filaire. Dans tous les pays africains, subsahariens ou nord-africains, l'opérateur historique, genre Socatel en Centrafrique, est extrêmement riche. Parce que non seulement il gère toute la téléphonie fixe, mais également la téléphonie mobile. Et nous sommes le seul pays où c'est scandaleux de voir que l'opérateur historique végète et est obligé de faire payer son personnel après des grèves pour 30... Donc, ça, c'est un problème éthique, à mon avis. Deuxièmement, on fait la politique pour qui? Pour la population. Monsieur Omtiga, et je me réjouis que ce soit un ingénieur, il vient de me dire que lui, il travaillait déjà sur la crypto-monnaie, enfin, avant, par Internet, parce qu'il est ingénieur. Il y a combien de Centrafricains qui ont accès à Internet? Troisièmement, nous avons comme pays, la RCA, nous avons signé des conventions, et je parle en regardant dans les yeux le professeur Ndouyabela, qui est juriste et qui peut beaucoup mieux que moi s'étendre là-dessus. Nous avons signé des conventions avec les autres pays de l'Afrique centrale qui font que notre monnaie, c'est le franc CFA et c'est une monnaie exclusive. C'est-à-dire qu'à côté du franc CFA, qui est, comme les Anglais appellent, official currency, c'est-à-dire la monnaie officielle, il n'y a pas d'autre monnaie qui ait cours légal en Centrafrique, en dehors de France CFA, et c'est géré par le dispositif de l'UMAC, l'Union Monétaire d'Afrique Centrale. Ironie du sort, le président en exercice actuel de l'UMAC est
le ministre des Finances.
Le ministre centrafricain des Finances. C'est pour ça qu'une réunion est convoquée au niveau de l'UMAC, parce qu'il y a incohérence entre le caractère légal de la crypto-monnaie en Centrafrique et nos engagements par rapport à la Banque Centrale. Je ne vais pas aller dans monopoliser la parole. Pourquoi nous avons écrit la lettre de réserve? Nous n'avons pas écrit la lettre de réserve parce que nous étions initialement ou systématiquement ou sans débat opposés au projet. C'est parce que nous avons rappelé tout simplement au ministre des Postes et au Premier ministre qui assurait l'intérim du ministre des Finances. Nous avons dit, mais puisque nous sommes membres de la BAC, et selon la nomenclature de la BAC, c'est vous l'autorité monétaire, monsieur le ministre des Finances. Et en plus, c'est la RCA qui préside l'UMAC. Mais pourquoi vous n'allez pas les voir pour trouver, discuter en amont, trouver, parce que la RCA comme État souverain a le droit de prendre des initiatives dans tous les domaines, mais sauf que les conventions internationales sont supérieures aux lois nationales. C'est pas Ziguele qui l'a inventé. Et j'ai dit au Premier ministre, devant la Commission, que vous êtes en train de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord voir la BEAC parce qu'il s'agit de la monnaie. Si vous considérez la crypto-monnaie comme un actif, il faut avoir l'avis de la COSUMAF. Parce que la COSUMAF, c'est le conseil de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale. C'est eux qui sont compétents. Si vous considérez que c'est la monnaie, c'est la BEAC. Si vous considérez que c'est un actif, c'est la COSUMAF. Discutez avec eux avant et vous ramenez le projet avec leurs observations et on sort une loi si ça doit aider le pays. Et l'État, je parle encore une fois devant un professeur de droit, l'État assure l'ordre public. Pourquoi il y a la BEAC? C'est pour garantir la stabilité de la monnaie. C'est-à-dire quand vous avez 10 000 francs, votre 10 000 francs doit garder sa valeur. Et tout le travail de la BEAC consiste à faire en sorte que vos 10 000 francs représentent toujours cette valeur-là. Donc la mission de la Banque Centrale, c'est de lutter contre l'inflation. Et il vient de le dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La crypto-monnaie peut perdre sa valeur. Donc il y a antinomie entre les deux missions. Troisièmement, je peux comprendre que l'État centrafricain dise « Expérimentons ce moyen de paiement pour ceux qui le peuvent. » Mais attention, dans la loi, il est dit que c'est une monnaie obligatoire. Donc, ce n'est pas facultatif. Et quatrièmement, l'État ne dit pas, et d'abord, je vous signale qu'un bitcoin coûte actuellement 26 millions CFA. Donc, ce n'est pas dans un pays où le pouvoir d'achat est de moins de 62% de la population vivent avec moins de 2 dollars par jour. Les gars qui ont 25 millions, vous voyez à peu près le tableau. Donc, et si le centrafricain qui, supposons par son épargne à 25 millions, achète un bitcoin, s'il perd la valeur, qui le rembourse? Alors que vous, Armando, si vous avez 2 milliards, 200 millions ou 100 millions ou 50 millions ou 20 millions à EcoBank, et EcoBank ferme, la Banque Centrale a une assurance sur les dépôts. On ne vous remboursera pas les 100 millions, mais on vous remboursera une partie. Parce que c'est le mécanisme de gestion de la monnaie en Afrique centrale sur la base du traité de l'UMA qui vous donne ces garanties-là. Mais pour la crypto-monnaie, vous aurez observé que personne ne dit qui paye en cas de pot cassé. C'est pour ça que je dis que ça ressemble à ce qu'on appelle en sango Bemba Moté, que les gens font au kilomètre 50.
C'est loterie.
Tu peux gagner, mais tu peux perdre. Sauf que là, quand tu perds, l'État qui a rendu ça obligatoire ne dit pas comment il t'indemnise. Donc je trouve que c'est contraire à l'ordre public. Nous saisirons la Cour constitutionnelle.
Voilà, M. Ziguele, désolé, le temps nous fait défaut. Prenons à présent les réactions des Centrafricains sur le sujet Patara d'aujourd'hui.
Bonjour Radio Nekeluka et les auditeurs. La crypto-monnaie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça se pratique un peu partout dans le monde. En Europe, un peu partout. C'est comme Orange Monnaie, transfert d'argent. Quand Orange Monnaie a démarré ses activités, comme Patabiani des fonctionnaires, on n'a pas pris une loi par rapport à ça. C'est des échanges. C'est comme la loterie, cash, PMU. Les gens prennent le risque. Le problème, c'est que quand l'État vote une loi pour encadrer ça, c'est qu'en dernier ressort, l'État va se constituer garant de ce système qui est si volatile. Je voudrais rappeler que, en fait, la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui existe, mais qui ne se fait qu'entre les gens qui ont des comptes de crypto-monnaie. Aujourd'hui, je peux avoir une valeur de Bitcoin qui correspond à 10 millions de francs CFA. Je ne peux aller nulle part pour demander, je veux retirer 5 millions. Je ne peux faire des transactions qu'avec des gens qui ont aussi un compte crypto-monnaie. Je ne sais pas pourquoi. En RCA, on a été obligé de prendre une loi par rapport à ça. C'est des jeux de hasard. L'État va être garant demain. Si moi, j'ai placé 2 millions de francs CFA qui me font l'équivalent en deux semaines de 4 millions en Bitcoin, tout et tout, s'il y a un problème, je vais m'adresser à qui ?
On se réveille seulement le matin et puis bingo, on écoute seulement à la radio qu'on a légalisé le Bitcoin ici en République centrafricaine. Et ce qui m'étonne, seul pays à avoir légalisé ça légalement dans ce pays, c'est seulement la République centrafricaine. Et dans le monde même, c'est Salvador après la République centrafricaine. Moi, j'ai pensé que la République centrafricaine doit voter des lois contre la cybercriminalité et la cybersécurité. Comme ça, le Bitcoin va venir après. Crypto-monnaie, mais on peut toutefois nous arnaquer. On peut toutefois même pirater nos comptes pour retirer tout l'argent que nous avons déposé sur le Bitcoin. Merci beaucoup.
Merci aussi à vous pour votre contribution. Je vous donne quelques secondes sur cette question parce que le temps nous fait de fou. Je suis désolé.
Je retiens de tout ce qui a été dit. C'est un moyen de paiement. Pourquoi on donne ça en inquiété ? C'est un moyen de paiement. Est-ce que ça doit poser logiquement un problème ? J'ai déjà écouté le directeur des affaires juridiques. Il a dit qu'il n'y a pas incompatibilité entre Bitcoin et le franc CFA. Le directeur des affaires juridiques de la CNCB, est-ce qu'on doit remettre en cause puisque l'autre est spécialiste en la matière ? Dans l'Union européenne, même la France, déjà l'année dernière, a opté pour la crypto-monnaie. Est-ce que, bon, par rapport aux conventions, est-ce que ça ne pose pas de problème ? Pourquoi là-bas, chez eux, ça ne pose pas de problème que particulièrement en Afrique centrale parce que la RCA a voté une loi dans ce sens que ça posait un autre problème. Le problème de Sokaté, il a évoqué. Je crois que le gouvernement est en train de faire une faute dans ce sens, dans le cadre de la fibre optique. Ça s'est fait, donc c'est pour remédier à cette situation que moi, j'ai effectué un déplacement jusqu'à Baoru. J'ai vu comment le travail se fait en entrain. Il faut attendre. Ça se fait lorsqu'il y aura la fibre optique partout, ça va renforcer la connexion à Internet. Et encore, lorsqu'on parle de Bitcoin, c'est vrai qu'on fait cela pour la population, mais dans un premier temps, est-ce que ce n'est pas pour gérer des affaires, puisque là, je suis en face de M. Ziguele, il est très fort, il est quand même Mozart en économie. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre des relations macroéconomiques ?
30 secondes, M. Ontega, c'est des questions.
Bon, j'avais d'autres aspects également.
On n'a pas le temps, je vous en prie.
Sur
cette question, rapidement, vous avez écouté les réactions des gens. 30 secondes sur ce point.
Il faut que les gens soient prêts à accepter le changement et à le subir. Parce que le changement, si on ne l'accepte pas, on le subit. Le président Ziguele a parlé tout à l'heure de la connexion Internet. Je crois que toute personne qui a un numéro est potentiellement habilitée à se connecter à Internet. Avant, c'était l'Internet de l'information. Mais là, maintenant, nous sommes en train d'aller vers l'Internet des valeurs. Donc, le business par Internet, la crypto-monnaie, ça rentre dans le cadre de l'Internet des valeurs. Maintenant, toute personne qui a un numéro à Birao et autres, les gens des numéros, je vois des gens qui utilisent leur compte WhatsApp depuis Birao partout. Donc, ces gens-là, ils ont Internet partout.
Je viens chez moi.
Parce qu'il a soulevé ce problème, mais il a également soulevé le problème de Sokatel. Ça, je suis d'accord. C'est l'opérateur historique qui a la gouvernance d'Internet dans un pays. Notre pays ici, bon, la Sokatel a démissionné.
Allez-y, M. Ziguele, quelques secondes.
Je voudrais dire que, vous savez, personne ne se réjouit des difficultés que son pays peut vivre. Personne. Même si on est cynique, masochiste, on ne peut pas se réjouir des difficultés de son pays. Mais je pense qu'il y a très peu d'occasions où on discute sérénement sur ce qu'on peut faire pour que, à court terme, un problème comme le problème du budget, on puisse faire puisse y faire face avec des solutions centrafricaines. Et puis par rapport à la crypto-monnaie, qu'on puisse quand même travailler selon les règles là. Parce que notre gouvernement se ridiculise devant les instances dont on est membre. Et je comprends la non-réaction des autorités centrafricaines par rapport à l'injonction qui est faite au ministre des Finances d'organiser le conseil d'administration de l'UMAC. Parce que je suis presque certain que le ministre centrafricain des Finances, en tant que financier, n'aurait jamais procédé de la manière qui a été faite là pour voter la loi sur la crypto-monnaie. Je mets ma main au feu que je suis convaincu qu'il n'aurait pas procédé comme ça s'il avait la possibilité de le faire. Parce qu'il s'agit d'ordonnancer la démarche, discuter d'abord avec les instances communautaires, arriver à un projet qui tienne compte de nos engagements juridiques internationaux, puis après faire la loi. On n'est pas contre ça. Et puis mettre les mécanismes d'accompagnement. Si quelqu'un perd au change dans un pays pauvre comme ça, si tu perds 10 millions, mais qui va te donner ça? Qui paye? Alors que nous avons le système de la Banque centrale qui garantit la stabilité de la monnaie.
Monsieur Ziguele, Monsieur Antiga, Monsieur Ndouyabela, fin de ce débat d'aujourd'hui. Il était consacré aux difficultés de trésorerie et à la promulgation de la loi sur la crypto-monnaie par le président Touadéra. Merci beaucoup. La République centrafricaine est devenue le premier pays africain et le deuxième au monde à pouvoir adopter une loi sur la crypto-monnaie ou le bitcoin. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Portez-vous bien car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir.